Les chroniques du patrimoine sur Demoiselle, avec Olivier Marvaux.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nos chroniques du patrimoine nous emmènent sur les traces d'un prestigieux fantôme. Non, nous ne partons pas à la découverte d'un château sur les berges d'un loch écossais ou dans un manoir hanté du Périgord noir. Nous restons bien au cœur de la Charente-Maritime. Ce fantôme auquel nous avons décidé de rendre hommage a fait les beaux jours de la presqu'île d'Arvers et profondément marqué la mémoire collective. Ce fantôme que l'on s'attend encore à voir surgir à tout instant au détour d'un bouquet de pins maritimes ou de chênes verts n'est autre que le tramway forestier de la forêt de la Coubre. Mais revenons tout d'abord 2 siècles en arrière, à l'époque où la question de l'ensablement de la presqu'île préoccupait les autorités et la population. On disait alors que les sables montaient en Arvers. La chapelle Notre-Dame de Buz, notamment, au milieu de la forêt, en avait fait les frais au cours des siècles précédents, ensevelie à 2 reprises. Un décret impérial datant de décembre 1810 prévoit de fixer les dunes grâce à un vaste programme de plantations. Les travaux commenceront seulement en 1824, une première phase qui se prolongera jusqu'en 1862 sous l'égide des ponts et chaussées. Puis ce sont les eaux et forêts qui prendront le relais à partir de 1862. Mais l'acheminement des hommes et du matériel et le transport du bois sont compliqués par le manque de voies de communication. Sous Napoléon III, en plein essor du rail en France, la décision est prise de construire un tramway pour faciliter l'exploitation forestière. Partant de la Combe à Massé, une petite carrière à proximité du parking actuel de la Grande Côte, sur la commune de Saint-Palais-sur-Mer, la ligne est construite entre 1868 et 1874 et aura tout d'abord pour terminus le Galon d'Or, au nord du massif, à proximité du pertuis de Maumusson, en face de l'île d'Oléron. Principalement dédié à l'exploitation forestière, le tramway permet de transporter les agents des eaux et forêts, des phares et balises, les secours en cas d'incendie, mais aussi quelques chasseurs et déjà les premiers touristes avides d'excursions ou de baignades. Mais son terminus au nord, se situant loin des zones habitées, son intérêt reste limité. Dès 1906, un rapport préconise de prolonger la ligne du tramway forestier jusqu'à Ronces-les-Bains. Mais il faudra attendre 1913, puis 1923, pour que cette prolongation, en 2 étapes, devienne effective. En 1942, sous l'occupation allemande, c'est l'organisation TOT qui va raccorder la ligne du tramway au réseau ferré principal dans le centre de la Tremblade, pour acheminer les hommes et le matériel dans la forêt et construire les fortifications du mur de l'Atlantique, notamment la batterie Gironde et de nombreux blocos qui marquent aujourd'hui encore le paysage du littoral. À l'origine, le tramway forestier était hippomobile, tiré par un simple cheval ou par un bœuf. Puis différentes générations d'automoteurs prendront le relais, des automoteurs à essence pour limiter les risques d'incendie en forêt. L'engouement pour le tramway forestier ne se dément pas. Avec le ralentissement des travaux forestiers, il devient même un atout touristique et connaît son âge d'or au début du XXe siècle. Alors imaginez-vous un instant à la Belle Époque. Vous arrivez de Saint-Georges-de-Didonne ou de Royan à bord du tramway dit du Parc, comme le quartier éponyme. Un tramway à vapeur, celui-ci. Vous longez la Grande Conche, Foncillon et son casino, puis le quartier de Pontaillac, Nozan et Saint-Palais. La correspondance avec le tramway forestier est assurée au terminus de la Grande Côte. Et votre voyage se poursuit avec une immersion au cœur de la forêt de la Coubre. Le tramway prend son temps, le voyage est une véritable excursion, pour ne pas dire une aventure, avec des arrêts près de l'actuel zoo de la Palmyre, près des maisons forestières de Bonnance ou encore de Nègrevaux. Au cœur de la forêt, un restaurant est aménagé pour accueillir les voyageurs. Le parcours du tramway forestier est en grande partie repris aujourd'hui par la piste cyclable de la Vélodyssée, depuis la baie de Bonnance notamment, en direction de la pointe espagnole et du Galon d'Or. Les bombardements de 1945 et les combats conduisant à la libération de la poche de Royan vont sonner le glas du tramway forestier. Il reprendra du service après-guerre, notamment pour évacuer le bois brûlé par les bombardements, mais il poussera bientôt son dernier souffle, et la ligne sera démantelée en août 1954. De nombreux documents et des cartes postales de l'époque perpétuent le souvenir des riches heures du tramway forestier et contribuent à rendre son souvenir vivace dans la mémoire collective. Alors on se prend à rêver d'une possible renaissance à notre époque où l'on met en avant les mobilités douces. Un nouveau tramway forestier, parangon de vertu écologique, permettrait de limiter la circulation automobile les jours de forte affluence estivale, de réduire la pression sur le massif, de transporter les promeneurs, les surfeurs et les poètes, pour observer la nature, la faune et la flore de cette forêt dunaire, littorale, sensible. Il subsiste aujourd'hui quelques rares témoins de ce patrimoine ferroviaire insolite. Quelques rails qui ont survécu, vaille que vaille, enfouis sous la végétation, en pleine forêt, et qui rappellent aux visiteurs ce glorieux passé, ce temps où le tramway forestier emmenait les voyageurs effectuer une croisière insolite, sur les rails, au cœur du massif de la Coubre. Belle journée à tous.
À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du patrimoine sur Demoiselles.